Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et suivez la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir Jésus, le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigo Genji. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Très chers amis, très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, soyez tous abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus. Rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Pour vous servir une fois de plus, je demeure toujours votre très humble serviteur. Recevez tous, où que vous soyez, qui est en contact avec nous, nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. C'est toujours un privilège immense d'honorer ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Vous le savez déjà, la vérité, c'est elle seule qui libère, qui affranchit. C'est ce que le Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous sommes là pour proclamer cette vérité et non prêcher une religion, ni les dogmes d'une religion. Une fois de plus, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Parce que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne encore un séjour de continuer de nous intéresser à ce sujet qui n'est pas le moindre, à savoir la famille. Comme promis, nous allons continuer. On nous intéresse à la famille, le socle des bases de la société. Et avant de continuer sur ce sujet, je suis obligé de répondre à ce message de ce fidèle auditeur. Il est vrai que le sujet n'est pas lié à la famille, directement à la famille, qu'à cela ne tienne, puisqu'il a pris la peine d'écrire. Je vais lire ce message et essayer de répondre à la lumière des Saintes Écritures. D'abord, ce fidèle auditeur dit, « Pasteur, que Dieu vous bénisse pour votre prédication. » Et cet auditeur a deux préoccupations. La première, c'est Dieu se trouve-t-il dans l'Église? Dieu est dans l'Église ou dans sa parole? Brièvement, sans entrer dans les détails, pour répondre à cette question, à savoir est-ce que Dieu est dans sa parole ou dans l'Église? Les deux. Dieu est également dans sa parole. Et il est également dans l'Église. Et quelques versets pour soutenir cela. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, le premier verset, il est écrit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Dans cette portion de Saint-Écriture, le premier verset de l'évangile de Jean, chapitre 1er, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Si la parole était depuis le commencement, la Bible nous dit clairement ici que Dieu est dans sa parole. Donc en lisant la parole de Dieu, nous pouvons rencontrer Dieu, nous pouvons écouter Dieu, nous pouvons nous connecter à Dieu, parce que c'est au travers de sa parole qu'il nous parle. Et il est aussi dans l'église. Lorsque je parle de l'église ici, il ne s'agit pas d'une organisation religieuse, ni d'un système religieux, ni un bâtiment fait de briques, parpaings et autres, les quatre murs, non. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. L'église n'est autre que le chrétien né de nouveau lui-même. C'est le chrétien qui est l'église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une organisation religieuse. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17, nous pouvons lire ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Amen. Nous voyons dans cette portion de Saint-Écriture que c'est le croyant qui est le véritable temple de Dieu. Dieu habite en lui. Donc c'est lui qui est l'Église. Et c'est lorsque les chrétiens s'assemblent qu'ils forment maintenant l'Église, parce qu'un lieu, un bâtiment ne saurait être l'Église. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra enlever son Église, il ne reviendra pas pour enlever une religion ou un bâtiment. Il viendra enlever les chrétiens nés de nouveau habités par son Esprit Saint. Et ce verset que nous pouvons lire pour confirmer avant de continuer, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, où le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Vous pouvez noter, mesdames et messieurs, et après prendre tout votre temps pour vérifier. Nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où les vrais chrétiens s'assemblent au nom du Seigneur Jésus, Dieu est au milieu d'eux. Ainsi on peut dire que Dieu est également à l'Église au milieu de ses enfants. Et la deuxième préoccupation de cet auditeur, c'était comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? C'est vrai que lorsque nous allons lire dans Actes des apôtres, nous allons voir qu'il y a eu certaines personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition de mains. Mais c'était juste des exceptions qui étaient liées à certaines situations, à un contexte précis. Par exemple, dans Actes des apôtres, chapitre 8, à partir du verset 14, il est écrit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Verset 15, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car, verset 16, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17, alors Pierre et Jean les imposaient les mains, et il reçut le Saint-Esprit. Amen. Voilà une portion de Saint-Écriture qui nous montre que les Samaritains qui n'étaient pas des Juifs, lorsqu'ils ont cru, le Seigneur va permettre que ce soit plutôt les Juifs, les apôtres qui étaient Juifs, que ce soit par eux qu'ils reçoivent le Saint-Esprit lorsqu'ils vont prier pour eux en les imposant les mains. Et Dieu a fait cela exprès. Parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout. Et lorsqu'ils vont accepter l'évangile que Philippe avait prêché, ils vont vraiment croire au Seigneur Jésus. Mais Dieu va décider exprès de permettre que ce soit par les mains des apôtres qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ainsi, Dieu, dans sa sagesse, a voulu tout simplement que les Juifs et les Samaritains forment un en Christ. Parce que l'Église était en train de naître. Et Dieu ne voulait pas que l'Église naisse dans la division. Dieu ne voulait pas qu'il y ait une Église des Samaritains et une Église des Juifs. Il fallait que l'Église soit une. Comme la Bible dit que nous sommes un en Christ. Ainsi, les Samaritains ayant reçu le Saint-Esprit par l'imposition de mains des apôtres qui étaient des Juifs, ils étaient obligés de s'unir à eux pour former un seul corps en Christ. Et nous allons également lire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, où l'apôtre Paul va rencontrer 12 disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Et lorsqu'il va les demander s'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru, ils vont dire qu'ils n'ont même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va les dire, pourtant, Jean-Baptiste, votre maître, a prêché sur le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va les prêcher l'évangile. Et lorsqu'ils vont croire à l'évangile que l'apôtre Paul va les prêcher, ils vont même se rebaptiser. Et lorsqu'ils vont se rebaptiser, l'apôtre va également leur imposer les mains et le Saint-Esprit va venir sur eux. Nous voyons également ici une exception. Ces disciples de Jean-Baptiste, en réalité, si on tient compte de l'ensemble des Saintes Écritures, n'étaient pas des vrais croyants. Parce que le fait qu'ils aient dit qu'ils n'ont même jamais entendu parler du Saint-Esprit montre qu'ils n'étaient pas vraiment les fidèles disciples de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est la première personne qui a commencé à prêcher sur le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. En disant, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc c'était étonnant que ces disciples qui se disaient être disciples de Jean-Baptiste aient dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de cela. Et l'apôtre Paul va comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui clochaient dans leur vie. Ainsi, il va les prêcher l'évangile de nouveau. Et quand ils vont croire maintenant, l'apôtre Paul va leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu était en train de confirmer que l'évangile que l'apôtre Paul les a prêché était vraiment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était cela, le chemin du salut. Maintenant, nous allons voir un autre cas qui est maintenant ce qui concerne désormais les hommes en général sur la terre. Nous avons vu d'abord le cas des Samaritains, nous avons vu le cas des disciples de Jean-Baptiste, nous allons voir maintenant le cas d'un Romain, ou bien des Romains, particulièrement Corneille et tout ce qui était avec lui. La Bible nous dit, nous sommes au chapitre 10, particulièrement au verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Verset 45, « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Les païens ici, ce sont les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47, « Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. » Alléluia. Nous voyons ici maintenant certaines personnes qui n'avaient même pas encore été baptisées dans l'eau, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que pendant qu'ils écoutaient la prédication de Pierre, ils écoutaient cette prédication avec foi. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit va descendre sur eux, avant qu'ils ne soient même baptisés dans l'eau. Donc, tous les hommes en général sont un peu comme Corneille et tous les siens, c'est-à-dire les non-juifs, que la Bible appelle également les païens, les non-juifs. Et désormais, lorsque les gens acceptent vraiment l'évangile du Seigneur avec foi, le Saint-Esprit descend directement sur eux. Et d'ailleurs, c'était une promesse du Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, nous pouvons lire ceci. L'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 37. Il est écrit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, « Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Amen. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit que tous ceux qui croiraient en lui vont recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est automatique. Dès que quelqu'un se repent sincèrement de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus par la foi, le Saint-Esprit de Dieu vient sur lui. Et nous pouvons également confirmer cela en lisant dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13 au verset 14. Écoutons attentivement ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. La Bible nous dit que lorsque quelqu'un écoute la parole de la vérité, l'évangile du salut, et qui croit, est scellé du Saint-Esprit. Donc même présentement que vous êtes en train de m'écouter, si vous avez foi au Seigneur Jésus, vous serez scellé du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit même présentement pendant que vous êtes en train d'écouter, si vous avez vraiment foi en la parole de Dieu et au Seigneur Jésus. Dieu va vous donner son esprit parce que c'est ce Saint-Esprit qui doit désormais faire de vous un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, le verset 9. Voilà en bref, mesdames et messieurs, pour répondre à cet auditeur, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons continuer comme promis ce sujet qui est un sujet très très intéressant, la famille, le socle des bases de la société. La dernière fois, beaucoup de choses ont été dites, un petit résumé. Nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures que Dieu est le concepteur de la famille. Depuis Genèse, il a créé l'homme et la femme et il les a bénis en leur demandant de se multiplier et de remplir la terre. Donc Dieu est le concepteur de la famille. C'est pour cette raison que c'est important que nous puissions nous pencher dans sa parole pour suivre ses précieux conseils. Parce que nous vivons dans un monde qui est sans dessus dessous. Tout simplement parce que la famille va mal. Et lorsque la famille va mal, ça se répercute dans la société ou sur la société. Nous avons également vu que lorsqu'on parle de la famille, bien entendu, il y a l'homme, la femme, ou bien la femme, le mari, les parents, les enfants, les frères et sœurs, et ainsi de suite. Et nous avons commencé à nous intéresser au mariage, particulièrement l'homme et la femme, ou bien la femme et le mari. Et beaucoup de choses ont été également dites à la lumière des Saintes Écritures. Et nous avons vu que si Dieu a créé l'homme et la femme, parce qu'il avait en vue de créer une famille, il les a également donné des responsabilités ou bien des rôles qui ne sont pas forcément les mêmes rôles, mais qui se complètent. Nous avons particulièrement vu que Dieu demandait à l'homme, à plusieurs reprises, d'aimer tout simplement sa femme, comme lui-même, et surtout, de le nourrir en la considérant comme un sexe faible, en usant également beaucoup de sagesse envers elle. Et avant de nous séparer, nous étions en train de voir aussi que Dieu a un modèle de femme dans la Bible, la femme vertueuse. Nous avons lu Proverbe 31, à partir du verset 10. Nous avons vu que beaucoup de femmes sont loin, loin, loin d'être ce modèle, la femme vertueuse. Nous avons lu beaucoup de choses dans cette portion des Saintes Écritures. Oui, dans Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. Particulièrement, les versets 10, 11 et 12, nous pouvons lire ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Donc, cette femme, selon Dieu, c'est cette femme qui fera tout pour faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. Et nous allons continuer en disant que la Bible recommande à la femme à plusieurs reprises d'être soumise à son mari. Par exemple, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 23, il est écrit ceci. Ou bien à partir du verset 22 au verset 24, il est écrit. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la famille comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Si la société va mal, c'est aussi quelque part parce que parfois les femmes veulent, certaines femmes, pas toutes, ne veulent pas prendre la place qui est vraiment cette place que Dieu leur a donnée dans le foyer. Beaucoup de femmes ne veulent pas se soumettre à leur mari. Beaucoup de femmes veulent prendre la place de leur mari. Et lorsqu'il y a ces choses, les conséquences ne peuvent pas du tout manquer. La Bible nous dit clairement que les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses, en toutes choses. Donc, les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari pour n'importe quelle raison que ce soit, non seulement sont en train de pécher contre Dieu, sont en train de semer également le désordre dans leur famille, même sans le savoir. La seule chose qui peut amener une femme à ne pas se soumettre à son mari, c'est si son mari lui dit quelque chose qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Si le mari lui dit quelque chose qui va l'amener à désobéir à la parole de Dieu. C'est la seule chose. En ce moment, Dieu étant la plus grande autorité, la femme dans ce cas peut, avec douceur, refuser de faire ce que son mari lui dit parce que ça l'amène à pécher contre Dieu. En dehors de ça, tout ce que l'homme dit en tant que chef, selon les Saintes Écritures, la femme devrait se soumettre. Oui, c'est très très important. Pour me faire comprendre, dans notre société, dans les entreprises, dans les structures, que ce soit public ou privé, il y a un certain ordre, il y a une hiérarchie. Il y a un directeur, il y a par exemple un chef de service. On ne se soumet pas à son chef tout simplement parce qu'il est forcément le plus intelligent ou le plus sage. On se soumet au chef parce qu'il est le chef. Parfois, un dossier peut traîner dans un bureau pendant des mois, tout simplement parce que le chef n'a pas signé. Ce n'est pas parce qu'il manque des gens qui peuvent signer ce dossier dans ce bureau ou dans ce service. C'est parce qu'il revient au chef d'apposer sa signature pour que ce dossier soit valable. Ce n'est pas parce qu'il est très sage, très intelligent ou très fort. Il y a forcément des gens qui sont même très sages, très forts et même plus diplômés que lui dans ce service. Mais ces personnes ne sont pas chefs comme lui. Il en est de même dans la famille. Dieu a d'abord créé l'homme et il l'a établi comme chef. Et c'est ainsi qu'en tant que chef, la femme doit faire les efforts de se soumettre à ce chef. Sauf si ce chef, l'homme, l'amène à déshonorer Dieu. Sauf si ce chef, l'homme, l'amène à pécher contre Dieu. En dehors de ça, toutes les autres excuses, toutes les autres choses ne sont pas valables aux yeux de Dieu. D'ailleurs, 1 Timothée chapitre 2 nous dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, nous pouvons lire ceci au verset 12. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, car Adam, verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voilà, la Bible nous dit que Dieu ne permet pas que la femme prenne l'autorité sur l'homme. Parce que depuis le commencement, Adam a été formé le premier. Donc c'est Adam qui est le chef. Ève est venue ensuite comme aide. C'est vrai que nous sommes dans un monde qui est désormais à l'envers. Les choses sont sans dessus dessous. Personne ne veut pratiquer la parole de Dieu. Personne ne veut prendre la place qui est la sienne. C'est vrai que il y a des abus partout. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Par exemple, les femmes revendiquent beaucoup de choses, parfois qui sont normales et légitimes. Elles ont même une journée internationale. Et lorsqu'on se rend compte parfois de la manière dont cette journée est utilisée, la femme parfois passe tout simplement à côté. Cette journée, en réalité, n'a pas été donnée pour montrer que la femme doit prendre le dessus sur l'homme, doit dominer l'homme, ou bien doit remplacer l'homme. Non. Ce qui est sûr, c'est que la femme, même si elle peut faire tout ce que les hommes font, elle reste toujours la femme et l'homme reste l'homme. Par exemple, c'est à elle que Dieu a donné le merveilleux privilège d'enfanter. L'homme n'enfantera jamais. À ce niveau, la femme reste la femme. C'est elle qui enfantera. Et dans Romains chapitre 13, nous pouvons lire ceci au verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Donc Dieu a établi une certaine autorité, un certain ordre. Donc Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Et Dieu a assigné des rôles à chacun. À l'homme, à la femme, aux parents, aux enfants. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir si Dieu le permet progressivement. Cette fois-ci, nous sommes beaucoup plus en train de parler du mari et de la femme, de leurs responsabilités. Un petit bémol, ce n'est pas parce que l'homme est le chef de la famille. J'ai béni d'ailleurs le Seigneur parce que dans notre nation, Les textes confirment cela, que l'homme est le chef de la famille. Je disais tantôt que ce n'est pas parce que l'homme est le chef de la famille qu'il doit maintenant se considérer comme un tyran, comme un dominateur. Là, c'est une erreur très très grave. C'est passer à côté de la volonté de Dieu. Par exemple, dans certaines maisons, lorsque l'homme rentre, les enfants se cachent. Tout le monde se cache. Parce que l'homme est un tyran, est un dominateur. Là, c'est passé à côté. Ce n'est pas du tout de cette façon que Dieu a demandé à l'homme d'être chef. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, va dire ceci. L'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 42, il est écrit ceci. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Verset 43, « Il n'en est pas de même au milieu de vous. » Amen. Donc, nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ clarifie les choses. Dans le monde, les grands et les chefs dominent, tyrannisent le peuple et ceux qui sont sous leur autorité. Mais Jésus dit clairement que au milieu de vous, il n'en sera pas ainsi. Donc, le plan de Dieu n'est pas que les chefs tyrannisent les gens, que les hommes tyrannisent les femmes. Beaucoup d'hommes, abusant également de leur position de chef, transforment les femmes en tam-tam. Beaucoup des hommes, soi-disant qui sont chefs, rationnent les femmes plutôt avec des coups de poing. Il faut se repentir si vous êtes dans cette situation. Cher monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes le chef de la famille que vous allez vous permettre de tyranniser les enfants et la femme. Vous allez vous permettre de la rationner avec les coups de poing ou bien de la transformer en tam-tam ou en exerçant le kickboxing sur elle. Pas du tout, ce n'est pas cela. Lorsque Dieu dit que l'homme est le chef, c'est tout simplement dire que c'est à l'homme que Dieu a donné la charge, la responsabilité de conduire sa famille dans la destinée que Dieu lui a préparée. Parce que chaque famille a une destinée. Et c'est à l'homme que repose la charge de conduire la famille sur ce chemin, dans cette destinée glorieuse. Dieu a toujours voulu qu'il y ait des gens devant pour diriger, pour conduire. Et dans la famille, la personne que Dieu a placée devant pour conduire, pour diriger, c'est l'homme. Tout simplement. Donc, c'est suffisamment clair. On ne doit pas tomber dans les excès. On doit tout simplement rester dans la parole de Dieu de façon équilibrée. Chacun jouant son rôle. Et ainsi, la famille va vivre dans l'harmonie. Et cela va également se répercuter dans la société. Un autre verset qui montre clairement que dans le plan de Dieu, l'homme est le chef. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Je peux lire ceci pour nous tous. Il est écrit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. » Amen. L'homme est le chef de la femme. Il faut que ces choses soient déjà suffisamment claires et que chacun sache quelle est sa position, quelle est sa place dans la famille. Ainsi, il n'y aura plus conflit ni rivalité. Parce que la vérité, c'est que si la famille va mal, c'est parce que parfois, les rôles sont inversés. Il y a conflit, il y a rivalité. Lorsque, par exemple, l'homme ne veut pas prendre sa place en tant que chef, lorsque la femme veut plutôt prendre la place de l'homme, les choses iront mal parce que ce n'est plus l'ordre établi par Dieu. Nous allons également voir les bons exemples et les mauvais exemples. Oui, dans les Saintes Écritures. Par exemple, un bon chef, c'est cette personne qui prend soin de sa famille. C'est un exemple en passant. C'est ce que 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 nous dit clairement. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Amen. Donc même si quelqu'un est un chrétien, la Bible dit que lorsque cet homme ne prend pas soin de sa famille, il a renié même la foi. Il est même pire qu'un païen. C'est un exemple pour voir que quand la Bible parle que l'homme est le chef, c'est avec des responsabilités bien précises, y compris pour la femme. Et nous allons également lire, mesdames et messieurs, une autre portion des Saintes Écritures qui interpelle la femme d'une manière ou de l'autre. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Il est écrit ceci, à partir du premier verset. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Verset 3, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumise à les maris, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Nous voyons ici comment la Bible interpelle la femme en disant qu'elle doit être soumise à son mari, afin que même si son mari n'obéit point à la parole de Dieu, il soit gagné sans parole, en voyant les conduites, en voyant la conduite de la femme, la manière de vivre respectueuse. Donc ici, la Bible va jusqu'à dire que il y a beaucoup de maris qui vont changer, tout simplement en voyant la manière de vivre de leurs femmes, chaste et surtout respectueuse. Donc, mesdames, même si vous avez un mari dur, difficile, ce n'est pas en faisant le bras de fer avec lui que vous allez changer une situation, jamais. Vous allez plutôt empirer, vous allez mettre tout simplement la maison en feu. La Bible dit plutôt ceci. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste, respectueuse, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mais, la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. La Bible nous dit que voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc ce n'est pas en revendiquant les choses, les postes, l'égalité avec l'homme que vous allez changer quoi que ce soit ou bien que vous allez être agréable aux yeux de Dieu. Pas du tout. Vous pouvez être même ministre, gouverneur, que sais-je. Mais ce n'est pas cela qui est votre vraie valeur aux yeux de Dieu. La vraie valeur que vous avez aux yeux de Dieu, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Et la manière dont vous vous conduisez dans votre maison, la manière dont vous vous conduisez devant votre mari, pour pouvoir l'amener à changer même s'il n'est pas un bon chef. C'est ça. Dans la famille, aujourd'hui, nous voyons que parfois il y a des maris qui ne jouent pas vraiment les rôles comme cela se doit en tant que chef. Et les femmes n'arrangent pas non plus la situation en voulant tout simplement tenir tête à leur mari. Et conséquence, c'est le désordre total. Et ce désordre se répercute sur les enfants. Et dans la société tout entière, que chacun revienne à de meilleurs sentiments, que chacun tienne compte des précieux conseils de Dieu. Et nous verrons que les choses iront mieux pour nous. Et la société tout entière en bénéficiera. Et Dieu sera glorifié. Amen. Si vous venez de vous joindre à nous, mesdames et messieurs, sachez tout simplement que vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Et nous sommes en train de nous intéresser à la famille. Et nous allons vraiment décortiquer beaucoup de choses. Je tiens particulièrement à traîner un peu les pas en ce qui concerne l'homme et la femme. C'est parce que je sais que si à ce niveau les choses vont bien, le reste ira bien. Mais si déjà entre homme et la femme, ça ne va pas, rien n'ira. Même avec les enfants, ça n'ira pas du tout. Ça n'ira pas du tout. Nous allons, par exemple, lire en passant quelques exemples. Lisons Genèse 24, le verset 67, par exemple. Genèse, vous êtes invités à relever, après vous pouvez prendre tout votre temps, mesdames, messieurs, et relis tranquillement chez vous. Genèse 24, le verset 67. Je lis ceci pour nous tous. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Maintenant, soulignons. Il l'aima. Amen. La Bible nous dit que Isaac, qui s'est marié à Rebecca, l'aima. Il l'a aimé. Et c'est exactement ce que la Bible demande aux hommes, d'aimer les femmes. D'aimer les femmes. Voilà moi un exemple, Isaac, qui aimait sa femme, Rebecca. Et 1 Samuel, chapitre 1. Les versets 4 et 5. Nous sommes maintenant en train de nous intéresser à quelques exemples pour dire que il y a toujours un exemple, oui, il y a toujours au moins un exemple qu'on peut imiter. Et c'est tantôt que nous allons également lire dans 1 Samuel, le chapitre 1er, les versets 4 et 5. Il est écrit ceci. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il lui donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Maintenant le verset 5. Mais il est donné à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Nous voyons aussi un homme qui avait une femme qui était stérile, c'est-à-dire elle ne lui avait pas donné des enfants. Mais pourtant, il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement. Alléluia. Parce que aujourd'hui, les femmes qui n'accouchent pas, parfois, ne récoltent que le mépris de leur mari. Vous n'allez pas aimer votre femme parce qu'elle accouche. Pas du tout. Vous allez aimer votre femme parce que c'est un commandement du Seigneur. Nous voyons un homme qui aime sa femme, malgré le fait qu'elle était stérile. Donc, que le fait de ne pas avoir les enfants ne soit plus un sujet ou bien une raison pour mépriser votre femme. Et j'ai tiré également l'attention de tous ces parents qui amènent leurs enfants à chasser leurs femmes, tout simplement parce qu'elle n'a pas accouché. Arrêtez cela, arrêtez ce massacre. L'homme ne doit pas aimer sa femme parce qu'elle a accouché, mais parce que c'est un commandement du Seigneur. Que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous avons lu la dernière fois dans Proverbes chapitre 31. Dans ce chapitre, nous avons vu également l'exemple d'une femme selon Dieu, une femme vertueuse. Nous avons également lu quelques versets tout à l'heure qui dit que elle ne fait que du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne lui fait pas du mal. Alléluia. Donc la femme doit s'efforcer à tout faire afin de ne pas faire du mal à son mari. Même si votre mari n'est pas un bon chef, ce n'est pas une raison pour lui faire du mal, pour lui souhaiter tous les malheurs du monde. En le faisant, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire tout simplement pour honorer Dieu et sa parole. D'abord. Et nous allons également, en passant, lire les mauvais exemples qu'il ne faut pas du tout imiter. Oui, par exemple, dans le livre des rois, nous pouvons lire ceci. Malheureusement, c'est le roi Salomon, à une période de sa vie où il n'était pas du tout un modèle. Oui, ce qui est quand même regrettable. Vous pouvez également relever cette portion de Sainte Écriture. Nous lisons ceci. C'est le chapitre 11 particulièrement. Il est écrit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères. La dernière fois, nous avons vu que Dieu était contre le divorce ou bien l'adultère. Nous voyons ici que le roi Salomon, à ce niveau, n'était pas un exemple. Le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, des moabites, des ammonites, des édomites, des sidoniennes, des éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Donc Salomon avait un collège de femmes chez lui. Et la Bible dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier dans l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Amen. Nous voyons là un mauvais exemple. D'ailleurs, lorsque Salomon va commencer à pécher contre Dieu, les conséquences seront immédiates. Son royaume sera divisé. Sa famille également sera divisée et son royaume. C'est ça les conséquences lorsqu'on ne se tourne pas dans la parole de Dieu. Lorsqu'on ne se soumet pas au conseil de Dieu. Maintenant, un autre mauvais exemple. Nous sommes toujours dans un roi. Cette fois-ci, au chapitre 21. C'est l'histoire d'un roi et d'une femme. Ce roi s'appelait Achab et sa femme s'appelait Jézabel. Nous pouvons lire ceci à partir du premier verset. 1 Roi 21 qui dit ceci. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisrel avait une vigne à Jisrel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Et je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisrel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jisrel. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors, verset 7, « Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ?» Voilà, cette femme va dire clairement à son mari que ce n'est pas toi qui exerces la souveraineté, c'est moi. Et c'est ainsi qu'elle va comploter pour tuer cet homme qui avait refusé de donner l'héritage de ses parents au roi Achab. Elle va comploter. Ainsi, on va tuer cet homme. Nous voyons une femme qui a eu une influence tellement négative sur un homme, sur un roi Achab. Donc, sachez que lorsqu'on parle la plupart du temps de Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est d'abord un esprit de domination. Cette femme qui ne veut pas se soumettre à son mari, mais qui veut plutôt le dominer. Et lorsqu'une femme commence à dominer son mari sans le savoir, elle a l'esprit de Jézabel. Vous pouvez lire cette histoire pour avoir les détails. Voilà un mauvais exemple. Une femme qui n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire dans une situation donnée, mais qui a plutôt encouragé son mari à commettre des meurtres. Et d'ailleurs, ce roi va finir comme l'un des rois vraiment les plus mauvais d'Israël, ayant commis des choses abominables. Et sa famille était aussi pour quelque chose. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Le Seigneur le permettant, nous allons continuer prochainement, oui, à nous intéresser toujours à la famille, particulièrement la place de la sexualité dans le mariage et quelques précieux conseils qui peuvent aider les mariés et les futurs mariés. Pour vous servir, mesdames et messieurs, je suis, je reste toujours votre humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse notre ville. Que le Seigneur Jésus bénisse également notre nation. Amen et à bientôt.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.